Bonsoir Aude Lavigne et bonsoir à tous. La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Ce soir, Vincent Huguet de Marianne, Frédéric Bonnet du journal Des Arts font leur rentrée dans la dispute et se font face. Nous allons nous disputer autour de deux expositions, Nikit Symphal au Grand Palais à Paris et Oliver Beer, Diabolus in Musica. C'est le titre de l'exposition présentée à la Galerie Tadeusz Ropak à Pantin. Nous évoquerons aussi plus rapidement l'exposition Carpo au musée d'Orsay, plus que quelques jours pour la découvrir, et puis celle de Sarkis au musée des Ducs de Württemberg à Montbéliard. Württemberg, à Montbéliard. On a beaucoup plus de temps puisque ce sera jusqu'au mois de janvier. Dans une vingtaine de minutes, on retrouvera Antoine Guillot pour sa revue de presse culturelle quotidienne. Le jeu de la dispute vous permettra ce soir de gagner des entrées pour l'exposition Roman Vichniak au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, une exposition dont nous parlerons ici même dans deux semaines. Enfin, nous avons rendez-vous avec l'invité de la dispute cette semaine, c'est l'essayiste, critique, commissaire d'exposition Dominique Paini. Et nous ouvrons cette émission avec la première grande exposition de la rentrée, celle consacrée à Nikit Symphal au Grand Palais à Paris, qui a ouvert ses portes aujourd'hui même. Une exposition dont le commissariat est assuré par Camille Morino, assistée de Lucia Pesapane. 12 ans après la mort de cet artiste, une exposition qui se présente comme l'occasion de dépasser un certain nombre de clichés concernant cette créatrice, dont les nanas, ces grandes sculptures de femmes tout en rondeur et très colorées, ont peut-être un peu éclipsé le reste d'une œuvre pourtant riche. Il faut rappeler ou dire ici qu'elle fut tout d'abord mannequin, Nikit Symphal. On voit quelques-unes de magazines d'ailleurs reproduites dans l'exposition. Elle se fait véritablement une place dans le monde de l'art avec ses tirs à performance qui invite, on va en parler, les spectateurs à tirer à la carabine sur des poches de couleurs qui sont accrochées sur des assemblages de plâtre. Il y en a toute une série dans l'exposition. On est en 61 quand elle fait ses tirs, Nikit Symphal, et qu'elle va être ainsi adoubée par les nouveaux réalistes. Elle sera la compagne et se mariera un peu plus tard avec l'artiste Jean Tinguely. Puis exilée aux États-Unis, Nikit Symphal va continuer à produire quantité d'œuvres jusqu'à sa mort en 2002 à l'âge de 71 ans pour ouvrir cette dispute La voix de l'artiste avec cet extrait du film d'Anne Julien et Louise Faure, Nikit Symphal, un rêve d'architecture qui est édité en DVD à l'occasion de cette exposition.
J'ai la folie des grandeurs. Mais j'ai la folie des grandeurs féminines, c'est différent. Mon monde, il est courbe, il est rond. C'est un monde féminin et on voit qu'est-ce que c'est la folie des grandeurs d'une femme qui, enfin, a attendu 20 siècles pour pouvoir se manifester comme je le fais aujourd'hui.
C'est pour prouver qu'une femme avait la possibilité aussi de rêver en grand et de réaliser en grand. Alors ça, c'était très important pour de montrer que c'était possible. Et j'ai presque senti que c'était mon destin de montrer cette force-là.
Nikit Symphal au Grand Palais, l'exposition vient d'ouvrir, elle sera visible jusqu'au 2 février. Premières impressions sur cette grande exposition, et puis ses propos peut-être aussi de Nikit Symphal qui disent déjà beaucoup de choses, qu'à mon sens d'ailleurs on retrouve fort bien dans l'exposition. Frédéric Bonnet pour commencer.
Oui, bah moi j'ai été assez emballé par cette exposition. Vous disiez que c'était le premier grand rendez-vous de la rentrée. C'est une belle rentrée avec cette rétrospective. Effectivement inattendue parce que je partage comme vous, je partageais en tout cas jusqu'à la visite de cette exposition la sensation d'une vision trop partielle de l'œuvre de Nikita Saint-Phalle, noyée sous les nanas multiples, indénombrables, de tout format, de toute texture, de toute couleur, qui ont vaillamment inondé le marché depuis des dizaines d'années et dont on n'arrivait pas à sortir. À côté de ça, évidemment, était quand même connue la période des tirs, quand même assez connue également, qui pour moi m'a toujours semblé l'acte le plus radical de Nikita Saint-Phalle, parce que c'est un travail véritablement sacrilège à l'endroit de la peinture, sacrilège à l'endroit de la religion, mais tout en étant sacrilège à l'endroit de la peinture, c'est aussi un fantastique acte pictural parce que d'aller demander à des invités ou à elle-même d'aller tirer à la carabine sur des tableaux pour que les trous laissent se déverser de la couleur quelque part réinvente une sorte de nouveau dripping. Bon, moi j'ai toujours trouvé ce corpus-là du travail absolument formidable et on n'est pas déçu dans l'exposition parce qu'il y a une très très grande salle.
Il y a un ensemble conséquent.
Très conséquent qu'on ne reverra pas de sitôt parce qu'il y a des prêts absolument magistraux venus de Suède, venus du MoMA New York, venus de très très grands musées. Donc déjà, ne serait-ce que cette salle-là, ça vaut le détour. Il y a quelques hôtels aussi qui font partie de cette série-là qui sont terriblement abrasifs parce que elle va tirer sur des symboles religieux, elle va tirer sur des armes. Il y a un hôtel complètement kitsch doré en référence à l'OAS, clairement indiqué. Ça, c'est une pièce de 62, donc on pouvait évidemment pas louper la référence en pleine guerre d'Algérie. C'était le fond, mais ce que permet cette exposition, c'est véritablement d'aller bien au-delà de ce qu'on croyait connaître de Nikita Saint-Phalle et d'ouvrir des champs de lecture tout en donnant à voir des nouvelles œuvres. Déjà, ne serait-ce que la première salle que j'ai trouvée stupéfiante avec des peintures de la fin des années 50, dont j'avoue que je ne les connaissais absolument pas, où on sent les prémices du nouveau réalisme parce que déjà elle utilise les objets dans le tableau et qu'on sent qu'elle est américaine, enfin, elle a été élevée aux États-Unis, elle est née en France, mais elle a été élevée aux États-Unis, et qu'elle a bien étudié son abstraction américaine, elle a beaucoup regardé Pollock, et je parlais de dripping à propos des tirs, ça aussi, ça vient sans doute pas de nulle part, et elle crée comme ça une série de tableaux qui s'intitule des landscapes, des paysages, qui sont absolument époustouflants dans la composition et dans leur matérialité.
Alors je reviens bien sûr vers vous dans un instant, Frédéric Bonnet. Premier mot, premier regard de Vincent Huguet sur cette exposition Nikita Saint-Phalle.
Moi, je vais emboîter le pas à Frédéric pour dire qu'au contraire, moi, dans la première salle, j'ai trouvé que l'exposition commençait très mal et je trouve que ça commence bien parce que au tout début, avant même de rentrer dans l'exposition, il y a un médaillon qui nous accueille où elle est en train d'armer sa carabine et de tirer avec une classe folle comme ça. La beauté aussi de Nikita Saint-Phalle qu'on a la chance de voir dans toute l'exposition, la beauté de la femme Nikita Saint-Phalle. Mais par contre, moi, au contraire, arrivé dans la première salle, je me suis dit, oulala, je me suis trouvé un assemblage de choses, effectivement, néo-Pollock, néo-Dada, néo-surréaliste. Tout ça, c'est un peu croûteux, un peu englué, avec des collages beaucoup moins bien que ce que faisaient les nouveaux réalistes dans ces années-là ou un petit peu plus tard. J'ai eu l'impression vraiment de quelqu'un qui se cherchait et je me suis dit, c'est vraiment Niki avant Nikita Saint-Phalle. Et elle le dit d'ailleurs, parce que dans la salle d'après, qui est consacrée à ce qu'on appelait les mariés, elle raconte qu'au départ, quand elle est rentrée des États-Unis, qu'elle s'est installée à Paris, elle dit qu'elle n'a pas de technique, qu'elle n'a pas fait vraiment d'école, qu'au début, elle n'était pas à l'aise. Alors, c'est vrai que dans le lot, il y a des œuvres qui ont une certaine force, mais moi, au début, j'ai trouvé ça au contraire très mauvais, les premières œuvres. Mais alors, j'insiste un peu là-dessus parce que je trouve que moi, c'est une exposition qui m'a beaucoup troublé en réalité parce que je dois avouer qu'un certain nombre des œuvres qui sont présentées ne me paraissent pas des œuvres très fortes, ne me paraissent même pas toujours des œuvres très belles, mais y a pour moi un décalage entre ce que sont ces œuvres aujourd'hui, ce que, accrochées sur des cimaises, qu'elles sont capables encore de dégager ou pas. Je trouve que certaines sont éteintes, je trouve que certaines ont vieilli, que certaines sont un peu sous la glu, mais en même temps, elles sont quand même jusqu'à aujourd'hui transfigurées par, à mon avis, le génie de Nikita Saint-Phalle, le génie de la femme, et qu'on trouve à chaque moment dans cette exposition, parce qu'il y a une grande intelligence et une grande générosité dans le fait de la montrer. Elle est très souvent dans des films auxquels vous avez déjà fait allusion, Arnaud. Moi, pour moi, je le dis tout de suite, c'est un des principaux plaisirs de l'exposition, parce que là, pour le coup, Nikita Saint-Phal, voici une artiste dont nous sommes tous, je crois, extrêmement familiers, tant ses œuvres, vous l'avez dit, ont été reproduites et copiées, montrées, etc. Mais la femme, Nikita Saint-Phal, c'est vrai que quand on n'est pas spécialiste, elle, sa façon de s'exprimer, sa verve, son humour, tout ça, on le retrouve dans chaque salle dans les vidéos. Et voilà, donc je trouve que l'artiste est phénoménal. Je trouve que toutes les œuvres sont pas aussi formidables qu'elle, mais je pense que c'est un petit peu lié à certains choix dans l'accrochage de l'exposition.
À propos d'accrochage, je n'ai pas le nom de la personne qui a fait la scénographie, mais comme vous avez le dossier de presse sous les yeux, Vincent Huguet, vous allez m'aider le temps que je continue à parler un petit peu, parce que le fait est que cette exposition était pour moi un très très grand plaisir, même si j'ai pas un goût très fort pour les œuvres, pour le travail plastique de Nikita Saint-Phal. Je trouve qu'il y a des ambiances extrêmement différentes d'une salle à une autre, très réussies, qui passent par vraiment effectivement une qualité à la fois de scénographie, d'utilisation de l'espace. Par exemple, c'est très rare, mais il y a certaines fenêtres qui ont été comme ouvertes, mais seulement avec une sorte de voile, enfin devant ces fenêtres, entouré par des très grandes statues de Nikita Saint-Phal, et tout d'un coup on a quand même le jour qui nous arrive, on a une science des lumières très forte. Et l'utilisation de la vidéo, il ne faudrait pas que nos auditeurs qui n'ont pas encore vu, hein, ça a ouvert aujourd'hui l'exposition, s'imaginent des petits écrans à l'entrée des salles. Non, il y a de vrais grands écrans parfois de cinéma avec des tailles tout à fait monumentales où l'on voit et où on entend Nikita Saint-Phal, et c'est la première fois que je trouve que ces vidéos ou ces films ne polluent pas l'exposition, ce qui est souvent le cas, mais au contraire l'enrichissent extrêmement, parce que, vous l'avez dit, elle a énormément d'esprit, de vivacité dans la parole. Et puis, moi, c'est une chose pourquoi je tiens Nikita Saint-Phal, non seulement pour une grande artiste, mais pour une personne importante, c'est le propos politique qui est vraiment très fort. La dimension féministe, mais alors vraiment au sens le plus noble du terme du travail de Nikita Saint-Phal, vraiment, ce sont des choses. Il y a d'ailleurs vers la toute fin de l'exposition, comme ça, des sortes de dessins sur la question de l'avortement aux États-Unis et sur les pro-life, les anti-life, etc. Enfin, toute cette dimension politique est vraiment extrêmement forte. Et cette femme, elle avait des choses à dire et elle ne s'est pas privée de les dire de toutes les façons, plastiques, esthétiques, narratives aussi. Parfois, ce sont des textes, parfois, ce sont des interviews qu'elle donne. Vous avez trouvé le nom de...
Mince alors.
C'était pas que j'ai mal cherché alors, peut-être. Bon. Vous avez l'air d'opiner un peu sur certaines des choses que je viens de dire, Frédéric Bonnet.
Oui, parce que moi aussi, je n'ai pas non plus une fascination pour l'ensemble du corpus artistique de Nikita Saint-Phal. Pour les tirs, oui, comme je l'ai dit, j'ai été, et je répète, très agréablement surpris par les tableaux de la première salle que n'a pas aimé Vincent. Après, moi, les nanas, plastiquement, ça ne m'a jamais fait fantasmer. Les mariés, non plus. Il y a beaucoup de choses comme ça qui, visuellement, plastiquement, ne m'intéressent pas plus que ça. Mais ce qu'il y a de formidable dans cette exposition, c'est la manière dont, je crois, Camille Morino, la commissaire, a très intelligemment déroulé le fil d'une vie et d'une création, et d'une vie engagée pour une création engagée. Comme vous le disiez, d'une femme féministe, il y a cet extrait, il y a cette phrase absolument extraordinaire qu'elle prononce dans un des films à voir dans le parcours de l'exposition. « La seule possibilité que j'aurais de ne pas être artiste serait d'être enceinte tous les 9 mois. » On oublie que les femmes peuvent créer. C'est quand même magistral de dire ça au début des années 60 quand on est artiste femme. Et tout ça avec une légèreté, avec une force de conviction absolument phénoménale. Et encore une fois, même si on n'est pas forcément plastiquement convaincu par tout, on voit aussi, moi ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'on a aussi toujours l'idée de Nikita Saint-Phal comme étant une artiste des années 60, point barre, quoi, qui n'a pas fait grand-chose après. Et même si le gros de l'exposition est consacré aux années 50-60, il y a quand même une dernière salle qu'on peut certes trouver un petit peu kitsch, mais qui a le mérite de dresser un peu un panorama de tout son travail, notamment sur l'art public qu'elle a lancé à partir du milieu des années 70 et qu'il a beaucoup occupé pendant les années 80-90, et un art public qui là encore est engagé parce qu'elle s'est saisie toujours de la cause des femmes, mais aussi de la cause du logement, mais aussi de la cause du sida. C'est des choses qu'on voit très clairement énoncées, et c'est toujours un travail qui est absolument plein de verve, même dans les œuvres assez tardives. Si on est un petit peu attentif, il y a toujours des commentaires, il y a un dessin qui raille complètement George W. Bush, un dessin de 2001, elle est morte en 2002, je crois, donc voilà. Et donc, il y a cette... Même si on n'est pas fasciné par toute l'esthétique de Niki de Saint-Phalle, on se rend compte qu'on a quand même affaire à une très, très grande artiste.
Oui, effectivement. Et tout ce qui est des Native Americans, tous les Indiens d'Amérique, l'attention portée aux Mexicains, aussi aux communautés. Enfin, voilà, une dimension politique d'engagement, mais qui passe par l'art chez elle, mais aussi par la parole. Vincent Huguet ?
Oui, et puis aussi avec une constante qui est sa double nature, qui est une double nature qu'on voit dès ses premières œuvres, de ces femmes qui sont à la fois effectivement des monstresses et des déesses en même temps, la violence et la douceur, l'agression et la séduction. Et c'est vrai que le parcours général montre qu'elle a été les deux, c'est-à-dire qu'elle a été capable de cette violence, de cette inventivité très forte. Elle a été capable de ruer dans les brancards très fort, je veux dire, à une époque où c'était pas évident. Et en même temps, toute la dernière partie de l'exposition montre son côté qui est né de la découverte du parc Güell de Gaudi en 55 à Barcelone, son côté enchanteresse, son côté... Alors, ça a l'air un peu schtroumpf parfois, toutes ces créatures, etc. Mais c'est vrai que je pense qu'elle a réussi son projet parce qu'elle le dit à un moment, elle dit « Oui, je suis une artiste, il m'arrive d'être joyeuse et j'ai envie que les gens le soient aussi. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise artiste ?» Elle dit des choses... Il faut absolument regarder les vidéos, elle dit des choses géniales. Mmh. Et de ce point de vue-là, je crois qu'elle y est tout à fait arrivée. Il faut aussi mesurer un artiste je pense que c'est ça, à la portée qu'elle est arrivée à avoir. Et ça, c'est vrai que c'est très impressionnant jusqu'à la fin. Alors, je crois qu'on est un peu d'accord sur ça. Donc, moi, je formulerai deux critiques à cette exposition. Je trouve que Camille Morino a eu raison de montrer l'artiste en tant que telle, féministe, engagée, politique, souveraine, si je puis dire. Je trouve que pour autant, c'était peut-être dommage d'effacer à ce point-là Jean Tinguely, qui est pratiquement absent de l'exposition. Et je trouve que c'est dommage parce que Niki de Saint-Phalle elle-même, non seulement elle le rejetait pas, mais dans le film dont vous avez diffusé un extrait, qui est très beau, le film, là, je trouve qu'il apporte vraiment un éclairage sur Niki de Saint-Phalle qui est très très beau. Elle dit à un moment le jardin des tarots, qui est la grande œuvre qu'elle réalise en Toscane à la fin de sa vie, elle dit j'aime d'autant plus ce projet que j'avais demandé à Jean de venir y faire aussi des interventions, des sculptures, des ferrailles et tout ça, et que c'était un moment où on se voyait plus trop, et là quand il venait pour faire ça, au moins il venait tout ça. Et je pense qu'elle a pas, si elle s'est construite si elle a shooté comme ça, elle a tiré dans un monde d'hommes, elle a pas tiré sur les hommes, et surtout pas sur celui-là, je pense pas. Et ça, je pense que c'est dommage, parce que il y a toute une partie de leur travail ensemble qui aurait montré aussi une autre facette de Niki de Saint-Phalle. On l'aperçoit par moments dans l'exposition, mais il en est presque absent, et je trouve que ça n'a pas lieu de... C'est un parti qui, à mon avis, est pas juste, et en plus, je trouve qu'on aurait été dans quelque chose d'encore plus beau sur Niki de Saint-Phalle. Le deuxième reproche que je ferais, c'est que Camille Morino a voulu faire une exposition qui soit pas strictement chronologique. Alors, il se trouve que beaucoup des œuvres phares dont on a parlé sont à peu près dans les mêmes années. Mais si on suit vraiment la chronologie, le début des tirs, vous l'avez dit Arnaud, c'est 61, c'est avant les nanas et avant la pleine éclosion des nanas, et du nana power, comme on dit dans l'exposition, qui sont dans la deuxième partie des années 60. Et moi, personnellement, j'aurais aimé voir les tirs avant les nanas.
Dans le parcours de l'exposition, alors que c'est pas du tout le cas.
C'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on nous montre, en gros, un chemin jusqu'aux nanas qui part des premières peintures, les mariées, les nanas qui sont contrebalancées par les mauvaises mères, les mères dévorantes, là, qui sont d'ailleurs, moi, je trouve très mal présentées, la scénographie.
Dans ces alcôves, là, vous n'aimez pas.
Très lourde, Alors, c'est théâtral, pourquoi pas, mais... Et ensuite, dans la deuxième partie, on arrive sur les tirs, puis sur l'art public, les jardins. Et moi, je trouve que ça aurait été beaucoup plus fort d'abord de montrer que c'était quelqu'un qui avait cette violence-là, qui tirait sur les tableaux, qui avait inventé ça, et qui ensuite allait vers les nanas. Et je trouve que dans la lecture, dans le cheminement de l'œuvre, moi, il y a quelque chose qui m'a mis mal à l'aise. Alors, c'est un parti qui se justifie, et bien sûr que commissaire, on a la liberté de faire ça, mais voilà, dans ce qu'on a dit de ce qui est bien dans cette exposition, moi, personnellement, j'ai regretté cette inversion, et je suis pas sûr que ce soit bien d'avoir fait ça.
Frédéric Bonnet.
Moi, je voudrais juste revenir sur le lien avec Jean Tinguely, parce que je me suis effectivement posé la question. On ne peut pas ne pas se poser la question, effectivement, à la sortie de l'exposition. Il n'y a pas une image, je crois, de Tinguely dans tout le... Pas une évocation, rien.
Alors, et dans le catalogue, bien sûr, présent.
Dans le catalogue, évidemment.
Mais pas dans l'expo.
Absolument. Et c'est vrai que je me suis posé la question, et je ne sais pas du tout si c'est l'intention de la commissaire, parce que je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec elle.
Ou d'autres histoires plus sombres,
je me suis dit que peut-être qu'il fallait quand même faire une fois une exposition comme ça, sans jamais mentionner Jean Tinguely, parce que Niki de Saint-Phalle a quand même toujours vécu dans l'ombre de Jean Tinguely. Elle a toujours été associée...
Ah oui, alors
associée,
c'est donc une volonté...
Peut-être, encore une fois, je ne sais pas si c'est l'intention peut-être. De la commissaire, mmh. mais je me dis qu'effectivement, c'est peut-être pas mal d'avoir fait une fois une exposition qui l'a fait s'exister seulement et uniquement pour elle-même et pas à côté de Jean Tinguely, parce qu'elle a toute sa vie et depuis...
De là, effacer. Voilà,
Frédéric, c'est une ombre très relative quand même. Hein. Si vous pensez que La Fontaine Stravinsky, c'est je crois 83, bon, ça fait peut-être qu'au début, mais enfin, sincèrement, ça fait quand même un moment que, en tout cas aux yeux du grand public, je pense même que.
Je pense que Niki de Saint-Phalle est beaucoup plus connue que Jean Tinguely.
Par exemple, Tinguely, d'ailleurs, personne ne sait prononcer son nom, personne ne sait si c'est Tinguely ou Tinguely. Faites un sondage en sortant dans la rue, vous allez voir, à Paris, les gens connaissent mieux Niki de Saint-Phalle que Tinguely. Hein,
ouais, je crois que c'est partout pareil.
Donc, je veux dire,
elle
par
a gagné.
Là, que si ombre il y a eu,
super.
Je pense qu'elle est plus valable aujourd'hui et depuis un moment, sincèrement, je pense.
Bon, riche, hein, riche, très riche exposition, on est tous d'accord là-dessus, avec les réserves énoncées par Vincent Huguet, cette exposition Niki de Saint-Phalle qui vient d'ouvrir au Grand Palais à Paris. Elle y sera visible jusqu'au 2 février. Alors, il y a de très nombreuses publications à cette occasion, par la RMN, du petit dictionnaire en 49 symboles à l'album de l'exposition, au gros catalogue et puis au DVD qu'on évoquait, dont on a entendu un extrait. Le DVD Un rêve d'architecture, je recherche le nom de ces réalisatrices qui sont Anne Julien et Louise Faure. C'est un DVD chez France Télévisions avec la RMN. Voilà pour une.
Pardon, Arnaud.
Non, je vous en prie.
Non, et aussi signaler en même temps la présentation de la Cabeza au 104. Une des têtes monumentales qu'elle a réalisées à la fin de sa vie. Et aussi, je viens de voir au Palais du Facteur Cheval, une exposition aussi qui commence le 19 septembre et qui court jusqu'à la fin de l'année sur le Jardin des Tarots.
D'accord.
Avec des photos, des maquettes. Et là, évidemment, le facteur cheval, elle adorait Niki de Saint-Phalle. Elle était elle-même une factrice cheval.
Factrice cheval.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Dans une quinzaine de minutes, nous disputerons autour de l'exposition de l'Oliver Bier Diabolus in Musica à la galerie Tadeusz Ropak à Pantin. Avant cela, Diabolus in Lectura, Antoine Guillot, pour sa revue de presse culturelle quotidienne. Bonsoir, diable d'Antoine.
Bonsoir Arnaud Laporte, vous dites ça parce que le diable est dans les détails.
Absolument.
Bonsoir à toutes et à tous. Bien qu'ayant été révoqué du musée Picasso en mai par l'ex-ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, ça avait été un des feuilletons de cette revue de presse la saison passée, Anne Baldassari va bien assurer l'exposition qui doit marquer la réouverture des lieux, prévue le 25 octobre, a-t-on pu lire dans Libération. Un accord a été signé le 1er septembre avec le ministère de la Culture sur ce compromis souhaité par Claude Picasso, le fils de l'artiste. Les deux parties ont signé une clause de confidentialité, ce qui n'a pas empêché des fuites dans la presse, assurant qu'Anne Baldassari se verrait aussi confier la rédaction du catalogue des collections du musée, qui compte 5000 œuvres. En revanche, rien n'a été dit des prétentions financières en jeu. L'exposition d'ouverture devrait présenter 500 tableaux accrochés dans l'hôtel Salé, fermé depuis 2009. Elle devrait durer quelques mois avant que le nouveau directeur Laurent Lebon ne puisse engager sa propre programmation. Picasso toujours, puisque c'est dans sa ville natale, la très touristique Malaga, que le centre Pompidou s'installera au printemps 2015 et pour 5 ans. Cette fois, précise Martine Robert dans Les Échos, pas de chapiteau spécifique pour le Musée National d'Art Moderne à l'instar du Pompidou Mobile, ni de bâtiment nouveau réalisé par un architecte star comme à Metz. Il va investir un édifice existant, El Cubo, mais aménagé spécialement pour lui sur le port de plaisance de la 6e ville d'Espagne. Objectif de son président Alain Seban, expérimenter de nouvelles modalités de diffusion et de valorisation des collection. De fait, écrit Claire Baumler dans le Figaro, puisant dans ses innombrables réserves, l'établissement parisien a choisi d'envoyer en Andalousie des œuvres du 20e et 21e siècle, dont des autoportraits de Francis Bacon ou de Frida Kahlo, un masque de Calder, mais aussi les Demoiselles d'Olmo de Baselitz ou une installation intrigante de Kader Atia. À l'étranger, les centres Pompidou provisoires permettront d'établir de nouvelles connexions avec les scènes émergentes de l'art contemporain et de mieux faire rayonner la collection, calcule-t-il. Dans la foulée, Alain Seban admet que ses prêts de très longue durée représenteront, bon an mal an, entre 1 et 1,5 million d'euros de recettes pour l'établissement français. Le centre poursuit donc un double but, mieux faire circuler ses collections et améliorer son ordinaire, forcément moins brillant qu'au temps de l'argent facile. À terme, rapporte Harry Bellé et Florence Evin dans Le Monde, il s'agit d'ouvrir au moins 3 centres Pompidou provisoires à l'étranger et en France, afin d'engranger 3 millions d'euros par an de redevances, autant que pour la dizaine d'expositions temporaires organisées chaque année et qui mobilisent lourdement les équipes parisiennes. Pour l'heure, l'objectif est de réussir le premier, Malaga, la vitrine. Pour Vincent Noz dans Libération, l'ouverture de cette antenne du centre Pompidou à Malaga relance le débat sur les initiatives prises dans le plus grand désordre par les musées français depuis une dizaine d'années pour exporter leurs trésors. Jusqu'alors, les prêts tenaient d'un consensus entre érudits, désireux de faire progresser la connaissance de l'art, chacun pouvant faire appel à la collection de l'autre. Aujourd'hui, nombre de foyers d'exposition n'ont pas de collection. Par-dessus tout, la tentation financière prime. Au contraire des grands musées américains restés exemplaires, les musées français se montrent les plus effrénés. Le contrat de 1 milliard d'euros pour le Louvre à Abu Dhabi a ouvert les vannes. Le musée Picasso a financé sa rénovation en louant ses chefs-d'œuvre. Orsay propose les siens pour 1 million d'euros. En 14 ans, certains Manet, même fragiles, auront ainsi voyagé 14 ou 15 fois. La visée commerciale paraît claire quand Orsay facture une expo à Venise 250 000 euros de plus s'il ajoute l'Olympia. Ces chiffres ont été révélés par le magazine en ligne La Tribune de l'Art, car la règle en France est de cacher ce saint SEING qu'on ne saurait voir. Le centre Pompidou aussi, poursuit Vincent Noz dans Libération, a cédé aux expositions de ses œuvres à travers le monde avec contrepartie financière, mais il se montre conscient de la complexité du système et de ses limites. Nous cherchons toujours à donner du sens à nos propres expositions hors les murs. Ce n'est pas le cas de tous les emprunteurs, regrette Alain Seban, qui sollicite systématiquement les mêmes célébrités, Matisse, Picasso, Chagall et autres Miro. Outre les risques courus par les œuvres, nombre de manifestations ont peu d'intérêt scientifique, c'est très frustrant. Pourquoi prêter des Matisse à des opérateurs qui n'ont pas de collection et vont eux-mêmes en tirer un bénéfice financier? Seban dit vouloir résister à la location d'œuvres qui contrevient au principe de déontologie fixé par l'ICOM, le Conseil international des musées. En même temps, 10 millions d'euros de subventions lui ont été retirés en 5 ans, ce qui rend la résistance difficile et la déontologie fluctuante, évidemment.
Voilà, les tribulations. Je remarque quand même, Antoine Guillaume, que chaque fois que vous pouvez citer le nom d'Aurélie Philippe Petit dans votre revue de presse, voilà, vous pouvez le dire. Hein. Ben, je sais pas, allez donc en Californie.
Il y a une période de transition, vous savez. Il y a encore ces traces partout.
D'accord, dans votre esprit, dans votre cœur. Commentaires, messieurs, sur ces informations de la revue de presse, Frédéric Bonnet, Pompidou, hors les murs.
Sur le musée Picasso on est tenté de dire tout là. Ça pour ça.
Ouais.
Pour se retrouver avec le schéma initial conçu par Anne Baldassari. Et puis, comment aurait-il pu en être autrement? Finalement, vu les délais et malgré le talent de Laurent Lebon, de réimaginer tout un accrochage. Enfin, voilà, donc on se rend bien compte que l'affaire a été gérée de manière absolument désastreuse par le ministère précédent. Quant au centre Pompidou, oui, le centre Pompidou, comme toutes les institutions françaises, a besoin de faire des recettes. Je ne suis pas certain, par contre, qu'il soit aussi scrupuleux que ce qui est annoncé par Alain Seban quant à des éventuels débouchés, parce que j'ai eu oui dire de plusieurs lieux qui ont été approchés à l'étranger, qui ne rentreraient pas forcément dans les cadres et les clous annoncés par Monsieur Seban, mais qui, par contre, se sont rétractés quand ils ont vu le montant du chèque qu'on leur demandait.
D'accord.
En contrepartie. Donc, bon, voilà.
Vincent Huguet.
On pourrait dire que c'est déjà mieux que le Portugal qui vend ses Miro, non? Bon,
ouais.
C'est pas une consolation assez maigre.
C'est une façon un peu optimiste de
voir
la chose.
Non, et puis sur
chose.
Picasso, moi je vois ça comme un bilan aussi comme ça, posthume du précédent, de la précédente action, de la précédente ministre de la Culture. C'est que ce qui est très frappant sur ce dossier et sur d'autres dossiers, c'est que les décisions n'étaient pas forcément mauvaises, mais avec un sens du tempo terrible. C'est-à-dire que c'est ça qui est frappant. Quand on regarde, c'est pas vrai, elle a pas fait que des choses mauvaises, mais c'est toujours au mauvais moment, trop tard, trop tôt. C'est fou de manquer à ce point-là de sens du tempo. C'est quand même ça, la politique aussi.
Ouais. Il reste la défiguration quand même de l'hôtel Salé. Ceux qui passent par là régulièrement voit des verrues architecturales quand même proliférer.
Sans que la pergola soit en voie d'être retirée.
Oui, mais il y a une énorme chose grisâtre là, qui est censée être un espace d'accueil qu'on fait plus qu'apercevoir. Enfin, c'est quand même un très bel hôtel particulier, l'hôtel Salé. C'est quand même étrange de voir ce qui s'y fait. Vous en avez parlé, Antoine, il y a des problèmes de permis de construire, hein, visiblement. Donc, bon.
Il y a
des voisins attentifs et ils font bien de l'être. Mais en tout cas, pour l'instant, les verrues persistent. Parlons de belles choses peut-être. Et parlons, on l'avait évoqué en votre absence, Vincent Huguet, mais un coup de cœur pour une exposition qui se termine le 28 septembre. Donc, si j'ai à peu près compté, il reste 11 jours pour aller au Musée d'Orsay pour aller voir Carpo, un sculpteur pour l'Empire.
Ah, je pensais pas que vous l'aviez évoqué. Sinon,
bon, alors je vous en prie.
C'est un rappel pour les derniers jours. Mais en fait,
les gens ne sont pas obligés d'écouter tous les soirs, vous savez.
Bah si, podcast après.
Bon d'accord.
Mais alors, du coup, peut-être je peux le transformer en double coup de cœur parce que j'ai vu deux expositions de sculpture là ces dernières semaines. Elles terminent toutes les deux le 28 septembre. C'est donc Jean-Baptiste Carpo au Musée d'Orsay et c'est Charles Rey au Kunstmuseum de Bâle, dont vous avez peut-être parlé aussi.
Je crois qu'Éric Loret l'a évoqué rapidement.
Il l'a évoqué, alors, et parce qu'en visitant Carpo, j'ai repensé à Charles Rey, qui est donc cet artiste américain que les visiteurs de Venise ont connu parce qu'il avait installé au bout de la pointe de la douane un petit garçon comme ça qui semblait pêcher dans le Grand Canal une grenouille et qui a eu toute une polémique. On l'a finalement enlevé et cette sculpture est à Bâle. Et ça m'a frappé, en fait, je fais un petit rapprochement entre les deux parce que Carpo, voilà, sculpteur qu'on associe effectivement au Second Empire, à Napoléon III, là, tout ce qui était la fête impériale. Eh bien, il y a certaines de ces sculptures qui m'ont rappelé directement celle de Charles Rey dans l'étrangeté, dans la matière, dans la bizarrerie parfois. Et je trouve ça très beau que comme ça, à plus d'un siècle d'écart, il y a toujours, j'ai l'impression, des sculpteurs qui sculptent un peu hors du temps. Et je crois que Charles Rey sculpte un peu hors du temps. C'est des figures très étranges, très fascinantes. Parfois, la matière, on dirait que c'est des sculptures qui sont en coquille d'œuf presque. Et si vous prenez certaines de ces figures, certains de ces hommes, certains de ces enfants, c'est très difficile de dire, sorti du contexte, que ça a été sculpté aujourd'hui. Et Carpo, c'est pareil. Je trouve que Carpo, il appartient à son époque, mais en même temps, de temps en temps, il dépasse ça. Il a une audace que je trouve très, une audace et une grâce que je trouve très très belles et qui m'ont beaucoup étonné, notamment dans les endroits où c'est un peu plus sombre. C'est-à-dire que ce que j'adorais dans l'expo Carpo, c'est que comme quand Dany chante que son cœur balance entre la Bastille et le boulevard Aix-Helmans, lui aussi son cœur balance entre le boulevard Aix-Helmans où il avait son atelier, mais pas mal d'endroits qu'on voit toujours aujourd'hui, puisque c'est la danse sur la façade du Palais Garnier, c'est Flore au pavillon du Louvre, c'est la fontaine de l'Observatoire. Donc il y a tous ces projets un peu prestigieux qui parfois sont très beaux. Et puis il y a par exemple une génial dans l'exposition, une vieille marquise, la marquise de la Valette, lui avait demandé de faire son portrait, il en fait un buste. Elle trouve que c'est pas réussi, elle trouve qu'il l'a représenté trop vieille, et il martèle comme ça la sculpture à coups de marteau, on voit la sculpture. Je trouve que c'est un geste de vandalisme fait par l'artiste lui-même qui est très fort. Et même chose aussi avec qui remet un peu les idées en place à l'heure où il y a encore eu des histoires pour l'exposition de Serrano au musée Fesch à Ajaccio. On voit une photo magnifique d'ailleurs de cette bouteille d'encre jetée sur la danse, le groupe donc qu'il avait sculpté pour la façade du Palais Garnier lors de son inauguration et qui aujourd'hui paraît voilà. Donc ces deux sculpteurs, je trouve qu'ils sont cousins dans le temps. Il y en a un à voir à Paris, l'autre à Bâle, et c'est jusqu'au 28 septembre.
Très bien. Et puis Frédéric Bonnet va nous emmener cap à l'Est aussi, à Montbéliard.
Oui, à Montbéliard, avec une très belle exposition, une très belle proposition de Sarkis, qui a pris possession du premier étage du musée des Ducs de Wurtemberg, qui est dans le château de Montbéliard. Et Sarkis, c'est formidable parce que il est toujours en train de relire son propre travail et toujours en train d'inventer quelque chose en relisant son propre travail. Là, il est parti d'un projet qu'il avait fait pour le Panthéon il y a plusieurs années. Il est reparti avec cette idée du Panthéon et de 77 des grands hommes du Panthéon, il a imaginé, pas les plus connus, évidemment, c'est un peu tombé dans l'oubli, il a imaginé leur signature qu'il a faite en néon bleu, des néons qui sont dispersés dans les salles d'exposition et qui vibrent, qui respirent. Et associé à ces néons, il y a une centaine de photographies de Montbéliardais anonymes, mais qui se retrouvent là parce que le musée conserve quelques 6000 plaques photographiques de la fin du 19e 19e et du début du 20e siècle. Donc des portraits de Montbéliardais que Sarkis a sélectionné, qu'il a agrandi en affiche et puis qu'il a dispersé eux aussi sans les associer forcément avec les signatures. Là-dessus, il a demandé à un compositeur du conservatoire de Montbéliard de créer une musique à partir, là encore, des collections du musée, très exactement de boîtes à musique qui sont conservées dans les collections du musée. Tout ça crée une atmosphère absolument immersive et magnétique où, avec que des choses mortes, on se retrouve finalement avec quelque chose de profondément vivant. C'est une expérience assez magnifique.
Alors, à vivre, là, il y a beaucoup plus de temps, parce que c'est jusqu'au 4 janvier 2015, cette exposition de Sarkis qui s'appelle Les Pôles, comme pôle nord et pôle sud, les pôles aimants, au musée des Ducs de Württemberg à Montbéliard.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Et avant la deuxième grande dispute qui sera consacrée à Oliver Beer, c'est le moment de retrouver l'invité de la dispute qui, cette semaine, l'essayiste, critique et commissaire d'exposition, Dominique Paigny.
Enchanté, comment allez-vous ? Très bien, merci.
Dominique Paigny, nous parlons ce soir ensemble d'art plastique. Vous avez maintenant une très grande pratique de commissariat d'exposition. Nous avons parlé cet été de Lewis Boltz au bal, dont vous aviez signé le commissariat avec la directrice du lieu. Quelles expositions avez-vous vues récemment que vous avez envie de conseiller à nos auditeurs ?
Je ne serai pas parisien, je serai messin et lensois. Non, parce que les deux expositions m'ont intéressé. De la même manière qu'au cinéma, on a eu deux films en tandem, les deux d'ailleurs, c'est pas anodin, avec Scarlett Johansson, Under the Skin et Her. L'un est vraiment où elle est désincarnée, elle est une voix dans un ordinateur, l'autre elle est surincarnée, une sorte de peau, hein, vraiment qu'elle s'arrache. Bon. Là, c'est deux expositions qui sont en tandem, également, qu'il faut voir un peu de la même manière que Under the Skin et Her. Il y a une exposition avec un sujet fort, un contenu fort, où les œuvres ont un rôle d'illustration, guillemets, pas seulement, hein, ils y échappent aussi à l'illustration, parce que de toute façon, c'est difficile quand les artistes sont bons de les enregimenter à un contenu. C'est l'exposition donc Les désastres de la guerre, dont la commissaire est, enfin en chef, si je puis dire, et Laurence Bertrand d'Orléac. J'étais très très impressionné par l'exposition.
Au Louvre-Lens.
Mais alors c'est très bien parce que l'exposition commence d'emblée, son incipit, j'ai envie de dire, commence avec David et Jéricho, et au fond, la tension entre David et Jéricho, enfin je vous dis ça de mémoire, et continuer jusqu'au bout. C'est-à-dire cette tension entre l'homme de la ligne et le néoclassique, si je puis dire, le coloriste échevelé, en quelque sorte, le Jéricho, tout ça, ça continue. Et de la même manière qu'on a, si vous voulez, Grotz et Autodix et Hans Richter. Tout ça s'affronte à la fois par les styles, mais aussi par les époques, évidemment. Hein. Mais il y a aussi, par exemple, dans la même époque, Ristuel Weber, la photographe, et Robert Combas, vraiment très proche. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la photographe un peu minimaliste, Ristuel Weber, qui photographie là, l'Irak d'en haut, comme des élevages de poussière de Duchamp, Man Ray, et Robert Combas, bon... Et cette tension, cette opposition des contraires continue aussi, comme par exemple cette belle chose qui m'a beaucoup frappé, parce que là j'ai cité des noms connus, mais Les désastres de la guerre, qui reprend bien sûr le titre à la fameuse série de gravures de Goya, hein, et qui est vraiment ô combien dans l'actualité aujourd'hui, parce que quel été, bon sang, quel été, ça saute de partout sur la planète cet été, c'est effrayant. Bref, donc l'exposition a bon sang, une sacrée actualité. Mais pour continuer ces oppositions dans l'exposition, c'est pour ça que les désastres de la guerre sont fondés sur un accrochage qui oppose. C'est, par exemple, il y a un peintre qui s'appelle, je ne connaissais pas, où j'avais vu vaguement dans le dictionnaire, quand j'étais gamin, les vieux Larousse, Édouard Détail, hein, ce qui est un peintre académique, etc., qui a fait une peinture où on voit un bivouac de je ne sais plus quelle guerre. Et ça s'appelle Le Rêve, le tableau. Et en camailleux dans le ciel. On voit les gens qui montent au paradis pendant que les soldats dorment au sol. Et d'ailleurs, on voit bien d'où Abel Gance est parti quand il a fait ses films J'accuse ou même son Napoléon. Hein. Alors voilà, détail, peinture qui va dans le dictionnaire au final. Mais aussi, il y a par exemple un peintre qui s'appelle, où je ne connaissais pas, où j'avais vu une première exposition au Centre Pompidou-Metz 1917, un peintre américain, je crois c'est l'américain John Nash, qui a été en guerre, la guerre de 14-18, je me souviens bien, la guerre de 14-18, qui a sauté sur des mines ou qui a failli être fusillé. En tout cas, il échappe à quelque chose, il s'en souvient et il le peint après. Donc il y a quelque chose là qui est extraordinaire, la façon dont il n'avait pas de photos comme Robert Capa. Mais justement, Robert Capa, lui, il a mis en scène. Hein, bon. Et puis l'autre exposition, c'est donc Forme simple au Centre Pompidou-Metz. Alors là c'est vraiment, il n'y a pas d'illustration, il n'y a pas de figuration de quoi que ce soit. C'est la surabstraction, j'ai envie de dire. C'est le lisse, le rond, le régulier. Ça va d'un galet, j'ai envie de dire anonyme, roulé par la mer jusqu'à un brancusi. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette exposition, je n'avais jamais pris conscience de ça, alors dont on peut discuter comme souvent avec le fastueux et le généreux Jean de Loisy qui en est le commissaire, il a presque trop mis, mais bon, c'est sa générosité, sa gourmandise, et puis parfois comme il en met trop, c'est pas toujours facile à loger et de faire un discours cohérent, mais c'est beau, fort, et les œuvres qu'il a choisies sont tellement bonnes et justes qu'elle enseigne. Et j'ai été frappé, et ça, il le démontre admirablement, Jean de Loisy, c'est tout ce qui est le résultat de la volonté, de l'effort de l'artiste pour polir, pour raser, pour strier régulièrement. C'est absolument indistinct de l'aléa de la nature, de tout ce qui est l'action de la nature, la trouvaille de quelque chose qui a été fait en dehors de la main de l'homme, et que parfois il est vraiment très difficile de distinguer ce qui est le résultat de l'effort de la main et l'effort du roulis d'un ressac de la mer. À la fois, c'est sa volonté, l'exposition est pareille, c'est sa qualité, son talent et sa limite, mais à la fois, on ne sait plus ce qu'a voulu Jean de Loisy, mais est-ce que Bob Morris est rapproché de César, Kapoor est rapproché de Nam June Paik, il y a une toupie de Bornéo qui est rapprochée d'un objet minimaliste, bref, il y a des rapprochements exceptionnellement faits qui font penser.
Voilà, penser, c'est tout ce qui nous importe et nous émouvoir par la pensée aussi. Demain, nous parlerons ensemble, Dominique Paini, de musique. Nous poursuivons donc cette dispute art plastique du mercredi en poussant une fois encore la porte d'une galerie, car nous y tenons. Dans la dispute, les galeries restent, je le répète un peu souvent, mais un formidable moyen simple d'accès et gratuit d'entrer en contact avec l'art de son temps. Ces 10 derniers jours, nombre de vernissages ont eu lieu à Paris et ailleurs, dont ceux de la galerie Tadeusz Ropak, alors dans son site parisien, mais aussi, c'est là que nous allons ce soir, dans son nouvel espace, enfin ouvert il y a quelques mois, à Pantin. C'est là qu'on peut découvrir Diabolus in Musica, titre de cette exposition personnelle du Britannique Oliver Beer. Alors, je n'ai pas pu voir cette exposition dans l'Oliver Beer. Alors, j'attends évidemment que vous m'en parliez pour en savoir plus. D'autant que je connais peu son travail. J'ai vu quelques œuvres. Je ne suis d'ailleurs, je crois, au Palais de Tokyo, me semble-t-il, il y a assez peu de temps. Vincent Huguet, pour commencer, peut-être une présentation d'ailleurs d'Oliver Beer, qui n'est pas l'artiste le plus connu aujourd'hui.
Non, parce qu'il
même si
Oui, enfin, alors cette année, il a beaucoup d'expositions. Il a une grande exposition au Musée d'Art Contemporain de Lyon, qui s'est terminée qui s'appelle Rabbit Hole, le trou du lapin. Et peut-être quoi, aussi Arnaud, vous l'aviez vu, moi c'est là que je l'avais découvert, à la dernière Biennale de Lyon, où il était présenté par le Palais de Tokyo, dans un bâtiment un peu à part. Et moi j'avoue que dans cette Biennale qui m'avait paru si terne, ses œuvres tout d'un coup avaient fait sur moi l'effet d'un coup de foudre, ce qui n'arrive pas si souvent. Arnaud, ça ne nous arrive pas tous les jours, donc ça vaut le coup. Alors quand on a un coup de foudre, on s'intéresse un peu après aux gens. Voilà, donc ça avait été mon
normalement
cas.
Oui.
Voilà, normalement. Donc moi, attendez, j'avais pas fait les choses à moitié puisque j'étais même allé voir son exposition à la Villa Arson à Nice, où il avait commencé ce travail-là qui montre aujourd'hui chez Tadeusz Ropak. Donc c'est un artiste qui est né dans le Kent, qui a même pas 30 ans et qui a
il est très très jeune.
Il est très jeune et alors ce qu'il a un peu fait connaître, si je puis dire là, depuis quelques années, c'est qu'il mène un projet qu'il fait un peu partout qui s'appelle The Resonance Project, le projet Résonance, où en fait il va dans des lieux qui sont aussi bien les égouts de Londres qu'un parking à Birmingham, où la semaine dernière Frédéric y était aussi, au centre dans les chenilles, vous savez, du centre Georges Pompidou, donc dans des architectures très différentes. Il y arrive avec des chanteurs, des choristes, enfin des chanteurs, et en fait il leur propose un protocole, il fait une partition parce qu'il a hésité longtemps entre la musique et l'art, finalement il fait les deux en même temps. Et en fait son idée c'est de faire résonner les lieux, puisque en fait chaque lieu, chaque architecture a une identité sonore. Encore faut-il la révéler, alors en plaçant les chanteurs dans certaines positions, jouant sur l'écho, l'acoustique, et puis en leur demandant de chanter telle ou telle note. Et alors, présenté comme ça peut être peut-être un peu abstrait, mais c'est très concret, hein, c'est de dire si les murs pouvaient parler, qu'est-ce qu'ils diraient. Ben, c'est un peu ce que montre Oliver Beer. Et alors moi, j'avoue que justement la performance, je le dis parce qu'il le fait régulièrement, donc on pourra sans doute en revoir, il faut un peu suivre ça, mais il en fait souvent. Se retrouver dans la chenille comme ça, qui est au dernier étage du centre Pompidou, avec Paris comme ça, et il y avait des chanteurs comme ça alignés, donc bouche fermée, ils chantent et il y a un écho qui se dégage et tout d'un coup, le lieu se met à vibrer alors qu'ils chantent pas fort. Hein. Et moi, j'ai trouvé ça bouleversant parce qu'on est empli de quelque chose, on dirait vraiment que c'est la voix tout d'un coup du centre Pompidou qui vous parle. C'est très très étonnant. Alors, les visiteurs de Pantin vont pouvoir faire cette expérience puisque l'exposition, vous l'avez dit, elle s'intitule Diabolus in Musica et donc c'est un accord de trois tons qui était utilisé dans la musique médiévale, puis qui a été considéré comme disharmonieux et dangereux parce qu'instable et pas agréable à entendre, et donc qui a été proscrit dans la musique, ce qui n'a évidemment pas empêché beaucoup de musiciens, dont Bach, de s'en emparer, Stravinsky plus tard, les gens qui font du hard rock, tout ça. Et donc, en fait, ces trois tons, ce triton, comme disent les musiciens, on l'entend dans un petit labyrinthe que Oliver Beer a installé dans la galerie. Donc, vous rentrez dans un labyrinthe tout à fait sombre, un peu backroom, comme ça, on voit pas très bien. Et à l'intérieur, donc, il y a un son, cette fois, il n'y a pas des chanteurs. En général, c'est avec des chanteurs qui sont là, le temps de la performance. Là, c'est enregistré. Et vous entendez comme ça ces échos. Donc, c'est une expérience très bizarre, très étonnante, juste presque une expérience de caverne, hein, d'ailleurs. Et donc, voilà, c'est cette installation, ce thème qui donne un peu le ton, le diapason, je dirais, de cette exposition, dans laquelle sont aussi présentés des objets. Mais alors, des objets très particuliers, on va en parler, des objets qui sont en fait, en réalité, qui sont incrustés dans les murs, mais je vais laisser un peu aussi mon camarade Frédéric raconter des choses. Et de l'autre côté, aussi. Autre pôle, si je puis dire l'exposition, autre partie comme ça, il y a comme un pôle positif et un pôle négatif, c'est un film fait à partir de Blanche-Neige, là aussi qui est très passionnant, c'est-à-dire qu'il a pris, je ne sais plus combien, 2 minutes 57 du film, où elle chante bien sûr « Un jour, mon prince viendra », et il a demandé à des écoliers, je crois plus de 500, de redessiner plan après plan le dessin animé. Et en fait, le petit film et le montage, donc ils ont remonté le dessin animé avec tous ces petits dessins qui, évidemment, chacun ont été libres d'interprétation. Donc sur l'un, Blanche-Neige a le visage rouge, noir, bleu, les animaux, ça devient des dinosaures et tout ça. Mais alors, monté comme ça, avec la rapidité du défilement des images, ça devient un film incroyable. Alors, des images subliminales, où on reconnaît, parce qu'en plus il y a la musique, mais il y a des moments où ça se fige, elle a la bouche ouverte, la bouche qui est verte, rouge, comme ça. Et donc voilà, il y a ces deux moments musicaux, si je puis dire, animés, la grotte, Blanche-Neige, et au milieu ces objets étranges.
Alors, on reviendrait vers vous là aussi, Vincent Huguet, mais Frédéric Bonnet pour parler d'Oliver Beer.
Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le travail d'Oliver Beer, c'est que, mine de rien et sans avoir l'air d'y toucher, j'ai le sentiment que ça traite beaucoup de questions de représentation. Et quand on traiter de représentation quand on travaille le son, c'est déjà pas une évidence phénoménale. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette pièce qui est à Pantin, parce que j'avais déjà vu des performances avec des chanteurs, c'est justement qu'il y a plus de chanteurs et que on se retrouve dans l'obscurité, que l'expérience du coup devient beaucoup plus minimale, devient complètement abstraite parce qu'on n'a rien à quoi se raccrocher et que se met en place un lien véritablement entre entendre et voir, parce que de priver le visiteur de lumière, évidemment ça va permettre de renverser les valeurs et de développer l'écoute. Et quand on ressort de là et qu'on est dans l'espace principal de cette petite galerie qui lui a été donnée à côté de la galerie de Pantin, de Tadeusz Ropak, il y a, comme le disait Vincent, ces objets qui sont incrustés dans les murs, qui sont en fait pas des objets dans leur entier, mais qui ont été découpés en tranches, et dont il a gardé une tranche qui a été insérée dans un bloc de résine, lui-même inséré dans le mur. Un bloc de résine blanc, ce qui fait qu'on a ces tranches d'objets, ces objets en coupe qui sont complètement flottants sur les murs. Alors ces objets, qu'est-ce que c'est ? Il y a des revolvers, il y a une canne, il y a des crayons, il y a un crâne, il y a une ampoule en verre. Voilà, donc c'est des choses... Alors techniquement, c'est en plus assez complexe. Et quand je parlais de questions de représentation, ces objets, je les trouve assez fascinants parce que on est face à un objet sans forcément le savoir. Si on ne vous l'a pas dit, vous vous demandez véritablement ce que vous êtes en train de regarder. Et que vous êtes face à un véritable objet dont vous ne savez pas ce qu'il y a derrière éventuellement, dont vous ne savez pas si c'est véritablement un objet, et le véritable objet devient une image flottante sur le mur. Et donc il y a une ambiguïté constante du statut de cette chose. Le volume devient, le volume tridimensionnel est transformé en dessin et acquiert évidemment une autre nature et une autre présence. Et c'est vrai aussi que dans le dessin animé de Blanche-Neige, là aussi, il y a des questions d'évocation et de représentation, parce que les enfants avaient pour seule consigne, sur cette brève séquence du film, de garder les contours, mais après de faire ce qu'ils voulaient à l'intérieur. Et donc de représenter la représentation qu'est le film lui-même, en quelque sorte. Donc voilà, je trouve que c'est effectivement un travail qui est assez fin et qui pose des questions et des développements assez intéressants quant à la nature de ce à quoi l'œil ou l'oreille est soumis.
Et en plus, ce dessin animé sur Blanche-Neige s'appelle Réanimation 1, donc on peut imaginer qu'il y en aura d'autres d'ailleurs qui vont suivre. Enfin, il y a ce jeu-là aussi. Sur les objets, Vincent Huguet, on ne vous a pas beaucoup entendu.
Mais sur les objets, en fait, ce que j'aime dans cette exposition, c'est qu'ils sont reliés au reste, un peu comme l'a dit Frédéric. Mais je crois qu'Oliver Bierce, moi, je crois qu'en fait, ce que j'aime bien chez lui, je suis en train de me dire, c'est que c'est comme quelqu'un qui vous amène au bord d'un étang, au bord de la mer, et qui dit tiens, regarde, je vais faire des ricochets. Et puis on se dit ça ne va pas marcher. Et puis en fait, ça marche. Et vraiment, ça ricoche. Je ne sais pas comment on dit. Et donc le son ricoche. Je ne sais pas si le verbe existe, le son en tout cas, mais l'image aussi, et ces objets, ils sont très étonnants parce que c'est comme on touche là aussi, c'est pas un hasard si à Blanche-Neige, on touche à un univers qui est proche de celui du conte, dont il est très familier, il ressemble lui-même un peu au chat du Cheshire, mais Alice, au Pays des Merveilles, tout ça, c'est son univers, et c'est comme des objets pétrifiés, des objets envoûtés tout d'un coup, et qui sont, le premier qu'il avait fait comme ça, et là il y en a aussi dans l'exposition, c'était une pipe, donc c'était malin, parce que par rapport à Magritte, ceci n'est pas une pipe, et là on peut vraiment jouer avec ça parce que si c'est vraiment une pipe, mais effectivement la surface est tellement lissée que ça pourrait être juste une image, un hologramme, pourquoi pas un trompe-l'œil d'ailleurs, et c'est pourtant vraiment des objets. Et moi je voudrais parler aussi d'une dernière œuvre qu'on a vue avec Frédéric, mais qu'on a perçue parce qu'elle était en installation et qui était une des œuvres qui m'avait beaucoup plu à Lyon, qui sont deux rails qui sont pas parallèles, et justement c'est ça qui est beau, c'est que
Road to Nowhere, voilà, une route pour nulle part,
qui est une référence référence à une chanson des Talking Heads qui était de 85, l'année de naissance d'Oliver Beer.
This is the road to nowhere.
Voilà, et qui sont deux rails de train posés là. Et alors là, ils vont nulle part, mais enfin, ils s'enfoncent quand même. Ils semblent s'enfoncer dans le sol. Et le détail qui, moi, me plaît beaucoup, c'est que ce sont des rails qui ne sont pas parallèles. Parce que c'est affreux, les parallèles. Ça veut dire qu'on se rencontre jamais jusqu'au bout. Là ils se rencontreront un jour. Et je pense que le point commun entre toutes ces œuvres, donc, c'est ces ricochets. Et c'est le fait, c'est quelqu'un, à mon avis, qui nous parle de ce que c'est de laisser des traces ou de ne pas en laisser. C'est-à-dire qu'on va passer dans ce labyrinthe, on va y entendre des échos, on va sortir et puis notre présence aura été oubliée. Et puis le jour où il n'y aura plus d'échos, on ne sera plus là, mais cette architecture sera toujours là. Le film, c'est pareil. C'est-à-dire comment nous, on met nos propres images, ces dessins d'enfants. Ces objets, c'est la même chose. Ces objets, ils existent le temps qu'on les regarde et puis un jour, ils seront oubliés. C'est même pas la carabine de Niki de Saint-Phalle qu'on voit incrustée dans le mur, mais c'est des objets qui sont amenés à disparaître, des crayons, des cannes, des objets sans qualité. Et voilà, je crois que c'est quelqu'un qui travaille sur ça, sur des œuvres qui mettent en avant des choses avec une présence incroyable et en même temps tout de suite leur disparition. Ils sont évanescents, ils sont juste à la surface, mais ils pourraient très bien ne pas être là. Ils pourraient disparaître dans la seconde d'après. Et je trouve que du coup, c'est très troublant parce que son esthétique, disons qu'elle est, on va dire, elle est minimaliste. Parce que quand vous irez à Pantin, vous verrez, vous rentrez, c'est tout blanc. Ces objets, ils sont incrustés dans, au début, on les voit à peine. On voit comme juste des dessins. Vous rentrez dans un labyrinthe, il n'y a rien, juste un peu de son. Bon, Blanche-Neige, c'est un peu plus de chair, mais tout ça est quand même assez minimal, globalement. Mais quand je lui avais proposé cette définition à Nice, j'avais dit minimal romantique. Il avait dit oui, d'accord, ça, c'est à peu près ça. Mais moi, j'aime bien que le minimalisme soit romantique parce que voilà, il y a quelque chose sur... Il y a quand même de l'affection dans tout ça, il y a de la tendresse, il y a de la rêverie. C'est pas du minimalisme froid, c'est un minimalisme, je pense, très intelligent, Frédéric l'a bien dit, c'est vrai, très réflexif, mais qu'il n'y a pas cette sécheresse qu'on peut avoir de temps en temps. Et du coup, ça attire, ça tient, on y pense après encore à ces œuvres après les avoir quittées.
Frédéric Bonnet, pas mieux ?
Oui, non, pas mieux. Non, je ne vais pas me mesurer à cette très belle analyse que vient de dresser Vincent. Non, parce que je partage complètement
c'est ça que je voulais dire.
Je partage complètement son point de vue. Et en effet, moi aussi, je suis touché par le fait que, romantique, je ne sais pas, mais que, en tout cas, il y a quelque chose d'un petit peu enveloppant et d'un petit peu voluptueux, finalement, dans ce travail. Et ça me plaît beaucoup. Moi, je dirais peut-être une dernière chose aussi qui m'apparaît dans le va-et-vient entre ces travaux, c'est que sans y aller frontalement, il y a quelque chose entre le mensonge et la vérité qui m'intéresse beaucoup parce que, encore une fois, on ne sait pas forcément à quoi on est confronté et que, bon, c'est bien qu'il n'y a pas de vérité en art, mais là, véritablement, sans le dire, il pose quand même cette question-là de la lecture et puis du mensonge et de la vérité.
Vincent Huguet.
Non, juste un petit mot pour dire que c'est drôle parce qu'en même temps, dans le plus grand espace de la galerie, sont présentés d'autres Britanniques d'une autre génération, Gilbert and George. C'est tellement tout l'inverse. Des images monumentales, énormes, criardes, très très spectaculaires. Et là, c'est vrai que c'est deux mondes. Alors, la galerie Ropac s'est mise à l'heure british, mais pour vraiment, j'allais dire pour le meilleur et pour le pire.
Non, c'est pas ce que vous vouliez dire. Non. Oliver Beer, en tout cas, est présenté jusqu'au 15 novembre à la galerie Thaddeus Ropac à Pantin. Et avant de conclure cette émission, dans quelques secondes, la question donnée, la question qui permettait de gagner hier des places pour un spectacle de Maud Le Pladec à la Biennale de la Danse de Lyon. La question était, Antoine ?
Il fallait nous dire à quelle heure la Biennale de la Danse, son focus danse s'ouvre plus particulièrement cette année.
Et la réponse était l'art circassien. À gagner ce soir des entrées pour l'exposition Roman Vishniak du 17 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui jusqu'au 25 janvier au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. La question, Antoine.
Quelle mission avait été confiée à Roman Vishniak en 1935 et par qui ?
Question complexe. Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfranceculture@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Vincent Huguet, Frédéric Bonnet, Antoine Guillaud, d'y avoir pris part avec moi. Merci à l'équipe de la dispute, Camille Baron, Pascaline Bonnet, Sam Boutata, Daniel Finot, Antoine Guillaud et Laurence Millet.
Prise de son assurée ce soir par Jason Taous, réalisation Daniel Finot. Rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la musique en compagnie de Véronique Mortaigne et Olivier Lam. À notre programme Syro d'Aphex Twin chez Warp et Bell of Stone d'achat chez Naïve. On évoquera également plus rapidement l'album Tudo de Bebel Gilberto et l'ouvrage Perfecting Sound Forever, une histoire de la musique enregistrée de Greg Miller au Castor Astral. On aura les choix de l'invité de la dispute, Dominique Paeni, la revue de presse d'Antoine Guillot, le jeu de la dispute. Tout cela, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture avec dans quelques instants le journal de la rédaction.